Donc, moi, je voulais vous poser une question que je me suis posée un petit peu tout le long de votre exposé, et puis surtout à la fin. Vous semblez mettre en lien le fait que on ne travaille pas bien la secondarisation à l'école primaire. Vous mettez ça en lien dans un rapport de causalité avec la polyvalence des enseignants. Est-ce que vous pensez que les enseignants du secondaire, qui sont donc spécialisés hors discipline, atteignent mieux cette secondarisation avec les élèves?
Allez, Joss.
Moi, j'avais donc aussi une question.
C'est la même. C'est dans la suite, parce que sinon, si je prends toutes les questions, j'arriverai plus après.
Ah, comme vous préférez. Vous préférez répondre.
Je pense que c'est peut-être plus facile à gérer que j'essaie d'apporter des éléments de réponse. Non, mais je la comprends bien. Au départ, mes recherches étaient donc sur le premier degré. Donc, à partir de là, j'ai pris les caractéristiques du poste de travail, donc la polyvalence. Et il me semble que cette situation de polyvalence rend encore plus compliquée la question de cette construction d'un rapport second, parce qu'elle confronte, alors je l'ai peut-être dit rapidement, mais l'enseignant, à toutes les disciplines qui figurent au programme. Donc voilà comment, alors je l'ai dit peut-être trop rapidement, c'est-à-dire que c'est pas le lien, il n'est pas effectivement prouvé, démontré, mais ça donne un côté peut-être encore plus problématique à cette construction, parce que l'enseignant est confronté à une pluralité de savoirs, les maths, le français, la techno, la musique, le PS, l'histoire, la géo. Donc voilà. Ensuite, quand vous me posez cette question pour le second degré, là, je ne peux pas m'appuyer sur des travaux de recherche que j'ai menés. Mais je suis pas loin de penser, pour une discipline comme la mienne, l'histoire, pour deux disciplines, l'histoire et la géographie, je suis pas loin de penser que cette question de la secondarisation se pose presque dans les mêmes termes que ceux que j'ai présentés pour le premier degré. C'est-à-dire que ces problèmes liés à l'usage des cartes, à l'usage des photographies, etc., je pense que pour partie, on pourrait les retrouver dans l'enseignement de l'histoire et de la géographie. Parce que quand on sait que près de 90% des enseignants d'histoire-géographie dans le second degré sont des historiens, bon, on peut dire que, là encore, attention, je ne dis pas qu'on ne peut pas enseigner la géographie quand on est historien ou le contraire, mais on peut dire qu'il a fallu que ils fassent un effort d'appropriation d'une discipline qui n'est pas celle qu'ils ont pu fréquenter longuement durant leurs études. Donc on peut penser que cette question de la construction d'un rapport second au monde, elle se pose aussi, je dirais, presque dans les mêmes termes, dans le second degré. Ce que je vous ai dit du cours dialogué, on peut, à mon avis, tout à fait le reprendre pour des pratiques de classe dans le second degré. Alors, il y a des petites choses qui vont peut-être différencier le second degré et le premier degré. On verra peut-être plus de moments de passage à l'écrit dans le second degré que dans le premier degré, autour de ce qu'on appelle dans le métier la trace écrite, ces moments où on fait écrire les élèves. Ce qui va peut-être différencier aussi, c'est qu'on va avoir, parce que c'est bien entrer maintenant dans les pratiques, l'enseignant qui va démarrer sa leçon par, comme on dit souvent, une problématique. Donc il y aura une question écrite au tableau, ce qu'on trouve peut-être moins à l'école primaire. Mais je dirais qu'on pourrait presque reprendre une partie de mes analyses et les retrouver pour le second degré. Je me souviens, dans un colloque, j'avais une remarque de collègue d'EPS qui m'avait dit, mais ce que vous dites pour l'histoire et la géographie, c'est intéressant parce que nous, en EPS, on est un peu confronté à cette question, c'est-à-dire qu'on enseigne de la gym, on enseigne du sport collectif, etc., etc., et on ne maîtrise pas tout. Donc, oui, je pense qu'on peut voir, alors il faudrait certainement prendre des précautions pour passer hein, d'un univers, le premier degré au second degré, pour passer de l'EPS à l'histoire géo. Mais je pense qu'il y a des points communs, hein, qu'on pourrait, je pense, dégager.
Oui, donc c'était par rapport à ce que vous venez de dire. Je trouve, il me semble en tout cas qu'il y a vraiment des manières de faire ordinaires qui sont très proches dans le premier et dans le second degré, sur les questions du cours dialogué, sur l'ancrage dans la vie quotidienne des élèves, et qu'en effet, il semble bien que ça puisse faire un effet de leurre, justement, par rapport à, parce qu'on motive les élèves, mais sur la question des plus cognitifs, je dirais, de la secondarisation. Ce que j'ai trouvé intéressant, enfin, entre autres, hein, c'est la notion d'archipel que vous avez utilisée, et je trouve que ça fait pendant à un constat qu'on fait très souvent de difficulté des élèves à faire du lien entre les disciplines, à l'intérieur de la même discipline, et que cette impression de toujours devoir tout recommencer à zéro parce que les choses ne sont pas construites. Et je trouve que cette notion d'archipel que vous avez mise en avant par rapport à la prégnance de la gestion de la classe est très éclairante du point de vue de l'activité des enseignantes, mais aussi du point de vue de l'activité des élèves. Et puis, une question, vous n'avez pas employé ou très peu le terme pédagogie, mais beaucoup celui de didactique. Voilà, donc ça m'interroge.
On va pas refaire ensemble la distinction entre pédagogie et didactique. Je pense que les deux dimensions, elles sont intimement mêlées. Je dirais que c'est peut-être une question de temporalité. Peut-être qu'on pourrait penser que la didactique a plus son espace dans la phase de conception, de préparation, et que peut-être, hein, dans le moment de la classe, hein, on est plutôt peut-être là plus sur la dimension didactique, pédagogique, pardon, de l'activité. Hein, mais voilà. Bon, didactique, parce qu'il me semble, comme Chevalard l'a posé, c'est toute la question des savoirs, de leur transmission, appropriation. Mais bien sûr qu'il ne peut pas y avoir de didactique sans pédagogie, bon, etc. Sur la question d'archipel, je pense que je pense qu'on confronte effectivement, de par ces pratiques, l'élève à de redoutables difficultés, hein, en lui laissant la charge, hein, de la reconstruction du sens. Alors, j'en ai pas parlé dans ma présentation, mais j'ai aussi mené, dans le cadre de ma thèse, des entretiens avec les élèves. J'ai aussi fait passer des questionnaires auprès d'élèves de cycle 3. Alors, je n'ai pas fait des entretiens juste après les séances que j'ai enregistrées. J'ai essayé de faire un petit peu à l'instar de ce que Bautier, Charlot, Rochex appellent des bilans de savoir. J'ai essayé de leur demander, ben voilà, qu'est-ce que tu as appris à faire, etc. Et c'est là où on se rend compte, dans ce que nous disent les élèves, hein, combien l'idée de Peulse, combien l'idée d'archipel est extrêmement présente dans leur tête, parce que je dirais que c'est un petit peu la géographie à l'école primaire, c'est un peu un rubric-à-brac où il y a beaucoup, il y a de tout, hein, mais dont ils ont du mal à donner un sens. Quand je leur demande, qu'est-ce que c'est pour toi, comment tu reconnais que c'est de la géographie? Alors, ils vont me dire, il y a les photos, il y a les cartes. Qu'est-ce que tu as appris en géographie? Ah ben, j'ai appris à colorier, à faire les drapeaux, etc. Mais on ne sent pas se dégager une certaine unité. Et je pense que le fait que les tâches, comme j'essaie de vous le montrer, sont enchâssées, qu'elles s'entremêlent, qu'elles s'entrecroisent, sans que on dise souvent à l'élève, ben voilà ce qui est important, voilà ce qu'il faut retenir, etc. Alors, peut participer de cette idée de... Bon, c'est peut-être ma déformation de géographe, hein, d'archipel. D'autres ont parlé de Peulse, de Scrabble. Hein, donc, comme si on donnait les morceaux aux élèves et à charge pour eux de tout reconstruire.
D'autant plus, pour reprendre la question premier et second degré, vous savez bien, comme parfois les collègues du second degré ont l'impression qu'ils sont les premiers à avoir un enseignement disciplinaire sur leur propre discipline, hein, et on a souvent ces prises de bec en liaison école-collège où l'enseignant du second degré dit ben on commence à enseigner ça et l'instit se met à hurler en disant mais attendez, il en fait depuis un certain temps, et on voit bien comment les questions par exemple sur des enseignements comme l'histoire et la géographie où on a basculé Si on regarde, par exemple, les programmes d'enseignement il y a 40 ans à l'école primaire sur qu'est-ce qu'on demande en géographie, on demandait de savoir faire une carte avec les fleuves, les villes, etc. L'évolution des contenus disciplinaires, la nouvelle géographie, etc., ont inventé de nouveaux contenus disciplinaires, qui fait que, par exemple, dans le second degré, on oppose beaucoup moins géographie physique, géographie humaine. Et donc, du coup, ça s'est transféré dans les programmes et dans les manières d'enseigner. Et c'est ce que Stéphane Bonnery reprend dans son ouvrage « Comprendre l'échec scolaire », avec l'exemple d'Amidou, qui, lorsque l'enseignante lui demande de faire la carte de géographie, lui, il a compris que faire la carte de géographie, c'était apprendre à bien colorier les bonnes cases, comme la maîtresse avait montré sur le modèle. Et lorsque la maîtresse au contrôle, ou l'enseignante au contrôle, donne une autre carte que celle sur laquelle il a fait les devoirs, alors il ne comprend plus. C'est-à-dire, il pense que la maîtresse est méchante avec lui, parce que ceux qui vont réussir, c'est ceux qui ont appris la bonne carte, là où lui, en fait, il y a eu tromperie sur la marchandise. Et Stéphane Bonnery, dans la lignée des travaux d'Escol qui ont été abondamment cités, explique que, en fait, dans le contrat didactique, j'allais dire, il y a un vrai malentendu entre l'élève qui pense que, en fait, enfin, il ne le pense pas, mais on pourrait penser qu'il pense que apprendre la géographie, c'est comme on apprenait la géographie il y a 50 ans, c'est-à-dire mettre les masses colorées au bon endroit et être capable de, quand on a appris la carte de la France, à refaire la carte de la France. Là où l'enseignante maintenant veut qu'il apprenne génériquement à faire une carte de géographie et placer les reliefs, la légende, l'articulation, etc. Donc l'objectif d'apprentissage, là il y a un vrai malentendu et c'est aussi lié à l'évolution des contenus à enseigner, à la complexification des contenus et au fait que les objectifs d'enseignement à l'école primaire sont en train d'être élevés. Quand on dit il faut que l'élève accède à la compréhension pour pouvoir entrer dans une perspective de littératie au collège, c'est bien plus élevé que ce qu'on réclamait comme usage de la compréhension il y a 50 ans, là où on ne pensait pas seulement lire pour apprendre dans d'autres disciplines, mais seulement lire pour lire. D'autres
Oui, j'ai beaucoup apprécié que vous ayez parlé de la problématique de la formation descendante. Il me semble que quand vous parlez de secondarisation pour les élèves, il y a aussi un problème de secondarisation pour les enseignants, c'est-à-dire comment les temps formatifs, qui sont de moins en moins nombreux, permettent effectivement aux enseignants d'avoir une pratique réflexive par rapport à leur classe. Alors que j'allais dire la tendance actuelle est plutôt à une formation qui devient de plus en plus prescriptive et qui du coup met complètement en décalage les enseignants dans leur classe entre leur pratique réelle et puis des prescriptions qui viennent s'ajouter, se surajouter les unes par-dessus les autres.
Je suis un peu embêté parce que j'ai énormément de questions. Alors je vais essayer déjà de les trier ou en tout cas on peut procéder par étapes. J'aurais bien aimé, mais vous avez eu un temps très contraint, que vous entriez un peu plus précisément dans l'opérationnalisation de la notion de processus de secondarisation, notamment parce qu'elle est organisée, vous avez choisi un certain nombre de critères, et chacun des critères est organisé en opposition. Et donc derrière, d'après moi, je fais une interprétation sans doute abusive, il y a bien autre chose. C'est-à-dire que vous avez des conceptions, un cadrage théorique ou des choix personnels. Donc j'aurais aimé au moins avoir par exemple une précision sur l'explicitation des enjeux. Pourquoi ce critère? Pourquoi les deux modes d'analyse en fait que vous avez choisi, les deux entrées à partir de ce critère-là, par exemple en expliquant ce que c'était, comment vous pouviez l'utiliser ou l'opérationnaliser par rapport à une situation d'enseignement-apprentissage ordinaire. Premier point.
Donc sur cette question, c'est-à-dire que le processus de secondarisation, bon, on en trouve, il y a beaucoup d'écrits. Et quand on prend les articles d'Elisabeth Bautier, etc., on arrive à dégager ce qui peut favoriser ou pas ce processus, d'où la tentative, à partir de ces travaux, de se donner un certain nombre d'indicateurs. Donc ce sont les 8 critères. Alors après, c'est sûr que c'est un peu manichéen, avec cette opposition binaire. Les enjeux cognitifs et culturels peuvent être explicités, oui, ou au contraire, ne pas l'être, non. Ça fait référence à toute cette question des malentendus, de l'opacité. Et donc, effectivement, derrière, il y a l'idée que si l'enseignant prend des moments dans sa séance pour dire « voilà quels sont les enjeux, voilà ce que j'attends de vous », voire à l'oral ou à l'écrit, ça peut contribuer à lever une certaine forme d'opacité. Hein. Et donc aider les élèves à mieux comprendre le sens du travail qu'il aurait demandé. Je vais prendre des exemples. Je vous ai parlé d'une séance sur l'agriculture française, d'où j'ai tiré la photographie. Quand on voit que pendant 10-15 minutes, là, vous ne l'avez pas sous les yeux, mais l'enseignant dit « bon, aujourd'hui, on va faire un peu de géographie ». Voilà comment il démarre sa séance. Donc, on a parlé de quoi la fois dernière, et puis, etc. On peut se dire que là, c'est quand même pas très explicite par rapport à quels vont être les enjeux. Et donc là, effectivement, on peut se dire que si l'enseignant avait pris le temps, parce que les autoconfrontations montrent bien qu'ils ont des préoccupations liées aux apprentissages, qu'ils ont leurs objectifs. Le problème, c'est qu'ils ne le disent pas. Alors peut-être que pour eux, il y a beaucoup de choses qui vont de soi. Puisqu'on est dans une séance de géographie, forcément, elle est en lien avec ce qui a été fait avant, etc. etc. Donc, c'est ça, cette question, par exemple, d'explicitation des enjeux. Il y a une pratique, par exemple, que je trouve assez intéressante, qu'on voit souvent à l'école maternelle. Les feuilles ou que les enseignants donnent aux élèves pour qu'ils réalisent leurs activités, bien souvent, l'enseignant prend soin de marquer ce qu'on attend de ce travail. En gros, l'objectif. Et donc, c'est sûr que ce n'est pas une explicitation là, peut-être directement pour les élèves, mais peut-être aussi adressée aux parents, etc. Donc, je pense qu'il y a des façons de faire, de procéder, qui peuvent quand même aider à lever en partie cette opacité. Voilà peut-être des éléments par rapport à votre première question. C'est-à-dire que je suis persuadé que l'enseignant sait, dans la majorité des cas, où il va, sait sur quoi il veut que les élèves travaillent. Le problème, c'est que pour des raisons diverses et variées, peut-être qu'il ne le dit pas suffisamment. Peut-être ne prend-il pas suffisamment le temps. Parce que, je dirais souvent, quand on est enseignant, on court après le temps, de faire des pauses, en quelque sorte, dans son discours pour dire, là, stop, on vient de faire, on vient de voir, et ça se relie à, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est laissant ainsi aux élèves la responsabilité de reconstruire les liens. Je crois qu'il connaît le chemin, lui, il sait où il va, mais il ne le dit pas forcément.
Oui, je veux pas me.
Il y a un choix qui est aussi pris par certains enseignants. On en a discuté à plusieurs reprises et ça a fait débat. Il n'y a pas de consensus sur le fait de laisser des choses implicites exprès pour favoriser en fait un apprentissage différent. Moi, je sais que j'ai eu plusieurs fois des enseignants qui me disaient. C'est volontairement, ce n'est pas explicite parce que tout n'est pas explicite et à un moment donné, il faut avoir aussi la compréhension de l'implicite. Donc c'est des points de vue qui s'affrontent dans l'enseignement.
D'où l'idée, si je peux me permettre juste une insiste, de prendre au sérieux ce que Thierry appelait des controverses. C'est-à-dire que il y a des moments où dans la pratique enseignante, on a l'impression que c'est l'un ou l'autre, et que donc c'est soit tu fais comme on te demande, soit tu fais pas comme on te demande, et que ces choses-là seraient irréductibles dans des manières de faire très différentes. Ce qui est important, c'est qu'on s'aperçoit que quand on organise des formations ou des temps dans lesquels on peut expliciter les choix qu'on fait, on se retrouve dans des formations où on n'est plus dans juste est-ce que ce que tu fais est didactiquement correct, mais est-ce que j'arrive, et les membres du groupe de la formation aussi, à accéder à tes propres choix. C'est-à-dire, est-ce que, un, tu es capable de les élucider, de les exprimer, de les expliciter, et deux, est-ce que tu es capable que, est-ce qu'on est capable ensemble de faire que les autres arrivent à comprendre ta cohérence propre? Et on le voit bien en particulier avec les débutants, hein, dans le travail qu'on a mené avec Neopass Action, où on s'aperçoit qu'un débutant qui est un ex-étudiant et qui est encore pas forcément construit complètement un rapport didactique, d'enseignement pédagogique, etc., il est dans des configurations provisoires, pour reprendre les termes de Lucria, et que quand on essaye d'accéder à cette compréhension des configurations provisoires, des équilibres que fait l'enseignant entre ce qu'on demande et ce que ça lui demande, alors du coup, on peut travailler différemment que simplement en disant « Non, il faut que tu changes, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. » Et du coup, la perception qu'il a de la formation ou de la situation collective de travail, elle est dans l'idée qui a été énoncée d'un moment d'analyse de travail, où on va effectivement être dans une attitude compréhensive, où on va se mettre à comprendre pourquoi tu fais comme ça. Ce qui est, pour moi, déjà un pas qui serait gagné et qui permettrait de comprendre pourquoi les enseignants rechignent tant parfois à entrer dans le travail collectif, parce qu'ils savent que ce travail collectif, ça va être un moment où on va leur dire « c'est pas bien ce que tu fais ». Et parfois, les collègues de Paris 8, Elisabeth Bautier, etc., que je citais, moi, je les ai vus être mis fortement en turbulence par une salle d'enseignants quand ils leur disaient des choses justes, mais d'une manière qui était perçue par eux comme étant « Attendez, vous êtes gentils, les blouses blanches, mais vous avez qu'à mettre les mains dedans avec nous, quoi. Hein ?» Donc, cette question de la double approche didactique et professionnel dans une perspective compréhensive, comme l'a dit Thierry, ça me semble être un point qu'il faut qu'on fasse circuler entre nous.
C'était juste une petite remarque. Les difficultés pointées en histoire-géographie, on les retrouve aussi bien en français en mathématiques. Donc c'est vrai que je me demande si la polyvalence a quelque chose à voir là-dedans, et c'est pas plutôt un problème de formation initial sur le rapport au savoir, quoi.
Oui, si je peux répondre rapidement, je pense que, comme je l'ai dit, la polyvalence, ça facilite pas les choses. C'est peut-être que ça les exacerbe. Et effectivement, je crois qu'il faudrait qu'on se pose aussi, mais c'est pas du tout mon travail, j'ai pas bossé là-dessus, la question de ce qu'on apprend à l'université quelque part. C'est-à-dire, est-ce que 3 années d'études spécialisées permettent de construire un rapport distancié aux disciplines, ou est-ce qu'au contraire, on bachote en permanence pour satisfaire aux exigences des examens? Bon, là, c'est lancé un peu style conversation entre nous, mais je pense qu'il faut effectivement aussi questionner ce temps-là, parce que... c'est pas la polyvalence qui fait tout.
Oui, moi j'irais même un peu plus loin que vous. Il me semble que ce que vous dites de l'université, notamment avec les nouveaux programmes, j'ai l'impression qu'on le demande de plus en plus aux élèves du primaire. C'est-à-dire qu'il y a eu, entre 2002 et 2008, un glissement, on va dire, des attendus scolaires, des procédures d'apprentissage, du comment on fait pour apprendre, à il faut savoir et tu dois savoir que. Et du coup, ce que vous évoquez en termes de, d'effets liés à la polyvalence, moi je le vois aussi comme un effet qui est plus quelque chose d'extérieur à l'enseignant, qui est plus par rapport à ce qu'il doit, je dis bien ce qu'il doit, faire apprendre aux élèves. Il me semble qu'il y a là quelque chose Je trouve que on a longtemps dit que la polyvalence c'était un atout majeur pour les maîtres, et je continue à le penser, c'est-à-dire que on voit l'élève dans ses multiples rapports à l'expérience et puis à ce qu'il construit progressivement à travers les disciplines dans son rapport au monde, et on identifie davantage, on va dire, les leviers sur lesquels on peut jouer en relation soit de petits groupes, soit individuels avec chacun d'eux. Et il me semble que la remettre en question uniquement à travers ce côté polyvalence et multitude des domaines ou des disciplines, c'est peut-être aussi faire abstraction de ce qu'on demande aux élèves de savoir à l'intérieur des disciplines. On est passé quand même de maîtriser la technique opératoire de la division en CM1 à aujourd'hui, en 2002, c'était un travail qui était terminé au collège, en sixième.
Oui, bon. Donc, si vous voulez, quand j'ai dit interroger la polyvalence, c'est parce que mon entrée était du côté de la secondarisation, etc. Bon, après, je dirais, pour aller dans le sens de vos propos, oui à la polyvalence, mais outillons les enseignants pour qu'ils puissent vivre mieux peut-être cette polyvalence au regard de ce que vous dites, de toutes les exigences qui pèsent aujourd'hui sur eux. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a, je crois que c'est Elisabeth Bautier qui a montré comment les exigences en termes de contenu à enseigner sont croissantes. On attend de plus en plus et de plus en plus tôt. Donc, est-ce que les enseignants sont outillés pour faire face à ces exigences? Là, c'est la question qu'on doit se poser. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile de, même si on dit on va partir des élèves, on les connaît, on va partir de leur quotidien pour remonter vers, mais le chemin est extrêmement long et je crois qu'on est effectivement avec des exigences de plus en plus peut-être élevées vis-à-vis de l'école primaire. Et je crois que là on peut peut-être avoir un peu un effet de cascade, en disant, comme à l'université, on dit, dans le second degré, ils apprennent plus, ils savent plus, donc faut qu'on remonte. Et puis, aujourd'hui, on dit, il faut aussi qu'à l'école primaire, on fasse plus, qu'on en fasse, parce qu'après, etc. Donc, je crois qu'il y a, il y a toute une chaîne d'éléments. Je pense que moi, j'ai essayé de détricoter un petit peu en prenant une entrée, mais on est dans un ensemble, je dirais, dans un système d'éléments avec des niveaux d'analyse ou d'enjeux qui s'emboîtent, comme on dirait en géographie. Donc, ce que vous dites, effectivement, les attentes, je crois qu'on pourrait les retrouver dans les éléments de contexte que j'ai essayé rapidement de mettre en place. Et je pense que les enseignants de l'école primaire, ils sont pris dans tous ces éléments qui interrogent l'école. Qu'est-ce que l'école? Qu'est-ce qu'on veut comme école? Qu'est-ce qu'on veut comme contenu, etc., etc.
Ce que vous dites est particulièrement éclairant quand on regarde les difficultés que les enseignants ont à analyser les difficultés des élèves, c'est-à-dire à sortir d'un discours sur des connaissances brutes et aller à comprendre le cheminement d'un élève dans la construction du savoir. Et souvent, les enseignants ont du coup du mal à utiliser les dispositifs d'aide qui sont mis à leur disposition, parce que justement, on ne sait pas forcément mettre en adéquation le savoir et la difficulté d'apprentissage.
C'est la question de la nature de la difficulté, moi je dis toujours versus l'origine. C'est quand on bascule de « je cherche l'origine de la difficulté », quand on bascule vers « je cherche la nature de la difficulté », que du coup, je peux m'outiller pour commencer à travailler. Et si on a l'occasion, ça serait intéressant qu'on regarde des petits bouts de vidéo où on voit une enseignante de ZEP qui fait faire un enseignement disciplinaire, quel qu'il soit, et qu'on essaye de comprendre entre tâches proposées aux élèves. Vous avez le double modèle là de la situation d'enseignement-apprentissage telle que Thierry nous l'a donné dans la page 2. Entre ce qu'elle fait faire, ce que les élèves comprennent qu'il y a à faire et la nature de leurs difficultés, c'est extrêmement complexe. Je suis pas sûr que nous tous, si on regarde un petit bout de vidéo et qu'on essaye de comprendre la nature des difficultés auxquelles les élèves sont confrontés pour entrer dans un savoir disciplinaire, c'est pas sûr qu'on n'aurait pas entre nous une sacrée bonne discussion sur voilà, il y a la gestion pédagogique que la collègue met en œuvre qui peut être tout à fait intéressante, etc. Mais est-ce qu'elle accède réellement à qu'est-ce qu'il y a à comprendre de épistémologiquement, j'allais dire, qui pose problème aux gamins? Ça, c'est pas facile et c'est un travail de voilà.
Si je peux, pardon, pour compléter ce que tu dis, Patrick, dans le travail du groupe de recherche, par rapport à ça, il y a eu des réactions assez éclairantes. C'est-à-dire que, donc, on a travaillé sur différentes disciplines. Et au départ, on s'est tous confrontés à des séances de mathématiques, à des séances de PS. Et quand on n'est pas de la discipline, on a énormément de mal à décoder ce qui se passe, hein, et à comprendre, etc. Donc c'est vrai que identifier les difficultés après des élèves, c'est encore plus compliqué.
Bon, je voudrais revenir sur le premier point que j'ai abordé, sur l'explicitation des enjeux. Parce que enjeu, c'est extrêmement polysémique. Quand on prend, par exemple, Brousseau dans la théorie des situations en maths, enjeu, ça a un sens très précis. C'est absolument pas explicité, par exemple, le savoir. Hein? De même, c'est pour ça que je crois qu'à un moment donné, on passe très vite sur plein de choses. Et puis après, en termes de formation, hein, je parle. Et puis on repart chacun, on a trouvé ça passionnant ou pas du tout, on s'est ennuyé ou bref. Hein. Or, pour que ça devienne passionnant, encore faut-il qu'il y ait des débats et qu'on creuse les choses, hein, et qu'on aille au fond avant de transposer des résultats de recherche ou de travaux et de vouloir faire ce que j'appelle des glissements abusifs. Hein. La recherche, c'est pas la même chose que la pratique. C'est bien différent. D'ailleurs, vous l'avez bien montré, vous avez un ancrage théorique, vous avez fait des choix, et c'est comme ça que vous donnez un éclairage sur une partie de la réalité. Hein? Voilà. Hein? Donc, il faut bien différencier. Alors, je donne un exemple sur l'explicitation des malentendus qu'il peut y avoir. Ça peut être interprété, par exemple, parfois, en « il faut expliciter le contrat didactique ». Or, quand on se réfère, par exemple, le contrat didactique, c'est quelque chose d'ancré théoriquement, c'est une construction théorique, ça n'est pas du réel. Hein. Quand on se réfère à certaines théories, en tout cas la théorie des situations, par exemple, justement, le contrat didactique, on peut pas l'expliciter. C'est les ruptures du contrat qui permettent justement ensuite qu'il y ait apprentissage. Donc, il faut aussi être là très prudent. Tout dépend de ce qu'on appelle explicitation des enjeux. Par contre, ce qui m'a un petit peu étonné et en même temps intéressé, hein, sur votre intervention, c'est que justement, l'ancrage disciplinaire montre aussi, et votre ancrage didactique montre aussi que suivant les disciplines, on voit bien que la didactique ne travaille pas à partir des mêmes matériaux, même théoriques. Par exemple, vous parlez de tâches. Hein, didactique. Vous parlez de prescription didactique. Vous ne faites pas référence au phénomène de transposition didactique. Vous ne faites pas référence, par exemple, à la notion de situation didactique et à la notion de situation adidactique. Donc on voit bien que suivant les champs disciplinaires, hein, les ancrages utilisés théoriques pour donner du sens, hein, pour essayer de comprendre, on voit bien que là aussi, on a des changements assez importants. Donc je trouve ça très stimulant par contre. Et puis dernière remarque, parce que je veux pas monopoliser la parole et le débat, ce que je trouve intéressant et ce qu'on avait retrouvé par exemple dans le travail sur l'enseignement des mathématiques, c'est votre dernier mot sur la place de l'épistémologie des disciplines, hein, ou des savoirs. Brousseau, il y a très longtemps, dans les années 60-70, posait déjà cette problématique à propos des maths. Hein, la place de l'épistémologie, et notamment en termes de formation des enseignants. Voilà.
Alors, je ne vais pas faire, pour répondre ou pour reprendre vos remarques, hein, on ne va pas se lancer dans un cours d'histoire des didactiques, mais effectivement, je crois qu'il y a une antériorité, hein, des recherches en didactique, notamment les travaux de Brousseau, et on peut dire que la didactique des mathématiques a joué un rôle précurseur, était une des premières didactiques, hein, à se structurer dans les années 60, avec effectivement un certain nombre d'outils, hein, qui ont été élaborés autour de la théorie des situations, etc. Bon, après cela, hein, chaque didactique a son histoire, comme vous le dites fort justement, et ses outils qu'elle s'est ou construite ou empruntée à d'autres, hein, avec des glissements et tous ces risques liés à la circulation, hein, des concepts. Alors, en deux mots sur la didactique de la géographie, c'est vrai, vous faites référence beaucoup à la transposition didactique de Chevalard, j'en parle pas. Hein, je dirais que quand on s'interroge sur la nature des savoirs scolaires et donc par rapport à ça aux pratiques d'enseignement, je dirais qu'on peut retrouver trois grands cadres Il y a celui de la transposition didactique de Chevallard. Vous avez les propositions d'Yves Martinan autour des pratiques sociales de référence. Et puis, vous avez plutôt une perspective socio-historique qui a été proposée par Chervel autour de la conceptualisation qu'il a faite de la discipline scolaire. Voilà les trois grands champs que l'on peut convoquer. Pour la didactique de la géographie, et notamment là, si on s'appuie sur les travaux donc de François Audigier, le cadre qui était celui sur lequel il a, j'espère que c'est le fondateur de la didactique de la géographie, mais le cadre à partir duquel il a travaillé, c'est celui de Chervel, celui de la discipline scolaire. Et ce qui est relativement intéressant quand on prend ces différents modèles, c'est qu'on se rend compte que, bon, en mathématiques, la transposition didactique, on peut dire, ben voilà, il y a un corps de savoir de référence clairement identifié, et par toute une chaîne de transformation, on arrive dans la classe. L'idée de la discipline scolaire, et ce qui peut être intéressant, c'est qu'elle prône une relative, si je puis dire, autonomie de la discipline à l'école par rapport aux disciplines de référence. Et pour nous, en géographie, ça nous semble assez intéressant dans la mesure où il est bien difficile de dire quelle est la géographie de référence. Parce que, je vais peut-être une minute ou deux, mais la géographie n'existe pas. C'est une fiction, c'est une construction. Quand vous êtes à l'université, vous rencontrez des géographies. Patrick parlait tout à l'heure d'une distinction classique entre géographie physique, géographie humaine. On pourrait les multiplier. Il y a des courants. Et ce qui rend les choses encore plus compliquées peut-être en géographie, c'est que dans les années 60-70, ce qui est très rare dans l'histoire des sciences, c'est qu'on a eu un basculement complet du paradigme de la géographie. Et donc, ce paradigme, bien sûr qu'il se traduit dans l'enseignement, mais il n'a pas toujours été saisi par tous les acteurs. En gros, ce basculement, quel est-il ? On est passé dans le champ à l'université d'une géographie qui se définissait en gros comme une science de la nature, et donc qui construisait ses problématiques en partant du milieu naturel et en allant vers les hommes, ce qui, dans le champ de l'enseignement, se traduisait par un modèle qui est en adéquation avec cette forme, c'est ce qu'on appelait le plan à tiroir. Je pense que vous allez très vite le reconnaître. Grand 1, le climat. Grand 2, le relief. En gros, on plantait un décor, puis après, on mettait des hommes. Ça, c'était en gros en adéquation avec la géographie jusque dans les années 50-60. Et au tournant des années 60-70, la géographie à l'université, les géographes ont été marqués par des travaux anglo-saxons, par tout un ensemble de réflexions. Et la géographie a basculé, si je puis dire, dans le champ des sciences sociales. Ce qu'on voit rarement, je ne sais pas quelles sont vos disciplines de formation, mais il y a très peu de disciplines qui changent comme ça d'univers de référence. Et donc, on a ensuite, à partir des années 60-70, des courants qui se sont nourris de cela. Et je dirais qu'il y a un quasi-accord aujourd'hui pour dire, quand on fait de la géographie, on est dans une science sociale qui travaille sur la dimension spatiale des sociétés, etc. Ça s'est retrouvé, effectivement, dans les programmes. À ceci près qu'un programme, c'est pas une adéquation parfaite d'une discipline scientifique de référence. Là encore, on pourrait revenir sur des questions de choix, de compromis, etc., etc. Et donc, dans les programmes de géographie, que ce soit pour le lycée, le collège ou l'école primaire, on retrouve toutes ces tensions. Et pour l'école primaire, le programme de 2002 est particulièrement éclairant. Et c'est Micheline Roumégouze, une collègue, qui a dit là, on a fait un aggiornamento de la géographie scolaire, comme ça. Et on trouvait effectivement dans ces programmes de 2002 beaucoup de points communs avec une partie de la géographie qu'on pourrait appeler l'analyse spatiale, etc. Mais ça n'avait pas effacé d'autres aspects qui se rattachent à des géographies plus classiques, D'où les grandes difficultés pour les enseignants. Et donc le fait nous qu'on recourt à cette question de la discipline scolaire, c'est pour dire qu'il y a une certaine distance, une certaine autonomie. Chervel dirait que c'est une construction de l'école par l'école, pardon, pour répondre à ses finalités. Et c'est la raison pour laquelle on recourt plus à ce cadre qu'à celui de la transposition didactique. Même si, dans une acceptation large, on peut dire bien sûr qu'il y a une transposition. Mais on ne le prend pas au sens de Chevala.
Oui, non, je ne reviendrai pas sur la question de la polyvalence. Pourtant, ce n'est pas l'envie qui m'en manque, parce que je trouve que c'est un débat quand même important. Parce qu'il y a derrière, il y a des choix. Bon, je connais par exemple un collège qui est en rare et qui s'interroge sur le fait de, justement en sixième, par exemple, de demander aux enseignants de faire plusieurs disciplines pour ne pas multiplier les intervenants auprès des élèves et donc multiplier les incohérences, etc. Donc derrière cette idée de polyvalence, est-ce que c'est un facteur aggravant dans l'accession à la secondarisation chez les élèves ou pas? C'est quand même un débat, je pense, très très important à avoir. Surtout quand vous dites histoire, géographie, il y a bien des profs d'histoire, enfin des historiens qui enseignent la géographie. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait un prof d'histoire, un prof de géo, puis peut-être à l'intérieur de l'histoire, peut-être avoir un historien du Moyen-Âge pour enseigner le Moyen-Âge. Enfin, c'est un débat qui mériterait peut-être d'être approfondi, mais on n'a pas le temps ici. Non, moi je voulais poser la question plutôt des pratiques. Est-ce que vos travaux ont été jusqu'à faire des propositions de pratiques, d'évolution de pratiques, ou pas, ou en êtes-vous arrêté au constat de ce qui empêche la secondarisation dans les cours que vous avez assistés, ou est-ce que vous avez été jusqu'à faire des recommandations ou donner des perspectives aux enseignants? Je pensais en posant cette question aux travaux justement de Guagou que vous avez évoqué. Il a une formule, moi, que j'aime bien pour quand il est en formation avec des enseignants. Il leur dit, et je pense pas que ce soit de la démagogie, ce que vous faites, c'est bien à 90% ou même à 100%, sauf il manque un bout. Et c'est ce bout-là qu'on va travailler pour que vos pratiques de moins efficace passe à plus efficace. Donc, est-ce que vous avez, vous, travaillé sur cette question-là ou pas?
Mais je ne suis pas allé jusqu'à faire officiellement, je dirais, des prescriptions, des préconisations. Bon, il est évident que, étant d'abord formateur et aujourd'hui enseignant-chercheur, ce qui est dans les recherches, même si je suis bien conscient que la recherche et l'enseignement, ce n'est pas la même chose, ça irrigue. C'est-à-dire que quand je mène une formation, les éléments que j'ai pu tirer de mes recherches sont présents. Et je dirais, il y a quelque part un postulat de base dans mes formations, ce sont les praticiens qui détiennent, qui ont le savoir sur ce qu'ils font. Et donc, mon travail, c'est de les aider à avancer, mais à partir de ce qu'ils sont, de ce qu'ils savent faire, etc. Je pense que si on commence à dire « c'est pas comme ça qu'il faut faire et je vais vous dire comment vous allez faire pour aller », on n'y arrivera pas. Donc, je dirais, s'appuyer sur ce qui se fait pour essayer d'avancer vers des éléments qui, de mon point de vue, en m'appuyant sur mes résultats, peuvent aider peut-être à voir quelque chose de plus efficient au regard de la construction de cette posture. Je dirais par exemple que quand on travaille avec des enseignants, moi je les ai confrontés à des scripts en formation où on voit très bien que quand on décompte le temps qu'un enseignant mobilise dans une séance pour lui, et le temps qui est laissé aux élèves, je dirais, il n'y a pas, si vous me passez l'expression, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que, sur une séance d'une heure, il y a toujours plus, souvent de 50%, qui est pris par l'enseignant. Donc, quand je fais une formation, je leur dis, il va peut-être falloir essayer de donner du temps aux élèves. Peut-être aussi essayer de penser que votre travail didactique, ce que je disais tout à l'heure, c'est quand vous préparez. Quand vous êtes en classe, ce qui est important, c'est peut-être de laisser l'espace à l'activité des élèves, etc. Donc, voilà comment je peux mobiliser les apports. Je dirais aussi, c'est par rapport au travail que je peux mener avec les étudiants en formation, quand je fais un peu de didactique de la géographie, j'essaie de voir avec eux dans quelles conditions, comme je me plais à le dire, on peut partir du bas, c'est-à-dire partir de ce que sont les élèves et pas de ce qu'on rêve qu'ils devraient être, c'est-à-dire les aider à cheminer. Parce que je crois que là aussi, c'est important. On est souvent sur des logiques dans l'enseignement comme la formation des logiques descendantes. C'est-à-dire qu'on part du haut puis on espère arriver jusqu'en bas. Je crois qu'il faut essayer là aussi dans l'enseignement d'inverser et de partir de ce que sont les élèves et de les faire monter.
C'est ce qu'on essaiera de continuer un peu à faire cet après-midi. On va juste, on reviendra tout à l'heure parce que moi je pense qu'il y a, c'est une autre façon, puisque tu parlais du modèle de Roland Gouagou, une autre façon d'illustrer le schéma que vous avez dans la page 2 sur l'articulation entre la prescription sur le travail enseignant et la prescription sur le travail des élèves. Je pense que le modèle de Gouagou là-dessus, il est assez intéressant. Enfin, je vous en fais là juste une traduction d'un modèle qu'il utilise lui. Sur, il y a un certain nombre de choses qui contribuent à définir la prescription du travail enseignant, et en cascade, le travail enseignant a un impact sur le travail réel des élèves, et il y a une boucle de régulation là entre le travail prescrit par l'enseignant, les tâches, les consignes, les situations, et puis ce que font réellement les élèves. Tout ça ayant un effet sur les élèves, sur les enseignants et sur le système. Et effectivement, dans la pratique du conseil pédagogique, de la formation, etc., il y a un autre modèle que Roland Gouagou a bien utilisé. C'est un modèle qui dit que, globalement, selon la spécialisation des gens, le type de conseil qu'ils vont faire n'a rien à voir. C'est-à-dire que quand vous avez un conseiller, un tuteur, un formateur qui est spécialiste de la séquence, et plus il se focalise sur la partie, comme l'a dit Thierry tout à l'heure, la partie préparation didactique de la séance. Et moins ils sont spécialistes. Donc par exemple, si vous avez un conseiller spécialisé de la maternelle qui va regarder des maths au CM2, plus il va au contraire se focaliser sur la gestion pédagogique, en disant comment tu fais pour les motiver, comment tu fais pour le travail de groupe, pour l'aide, etc. Et donc Roland dit, il y a quelque chose de vraiment intéressant, c'est que quand on est en situation de formation d'enseignant, et vous avez dit que vous animiez souvent des formations, pour le formateur, connaître un certain nombre de choses sur où sont les obstacles épistémologiques qui vont faire que l'élève va avoir des difficultés à apprendre, ça nous aide en tant que formateur à sortir des discours généralisés. Et très souvent, c'est une des difficultés qu'on a, et je vais chuter sur la question que je voudrais te poser, on a des principes généraux en pédagogie, et puis on les fait tourner comme ça, de manière assez prescriptive, mais sans qu'on descende exactement sur les situations d'apprentissage. Et la question que je voudrais te poser, c'est, tu as dit tout à l'heure que les nouvelles prescriptions sur les compétences, les entrées par les compétences, bousculent un certain nombre de choses. Et en quoi tu penses que ça peut être, alors un danger, je sais pas, mais enfin une difficulté supplémentaire. Enfin, je veux dire, est-ce que cette entrée par les compétences, vue de ton point de vue, hein, on ne demande pas une position messianique, mais de ton point de vue, est-ce que c'est quelque chose qui est de nature à aider les enseignants à reconstruire de nouveaux, on a parlé tout à l'heure d'objectifs, etc., ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui, dans ta perspective, entrechoque, mêle des choses qui sont inconciliables, quoi, cette entrée sur les compétences?
Mais je dirais que c'est... ça complexifie encore le travail. Parce que les enseignants, aujourd'hui, ils travaillent dans une forme scolaire, hein, pour reprendre l'expression de Vincent, etc., qui n'est pas prévue, je dirais, pour construire des compétences. Hein, et donc, je pense que l'approche par compétences suppose qu'on modifie, peut-être pas de fond en comble, hein, mais qu'on fasse bouger beaucoup de lignes. J'ai lu des articles sur, par exemple, l'approche par compétences et les manuels scolaires, où on voit comment il est très difficile de faire bouger les manuels scolaires pour aller vers la construction de compétences. Donc je crois que c'est un élément qui va complexifier le travail, qui va amener certainement de nouvelles tensions, parce que, pour reprendre les propos, les termes d'Yves Clos, le genre professionnel de l'enseignant, il n'est pas du tout, pour l'instant, dans les perspectives là. Ce qui peut aussi complexifier le travail, c'est que l'approche par compétence, et le socle commun en est une illustration, je dirais, et alors je vais le dire vite, peut-être il faudra que. Mais est disciplinaire en quelque sorte. On voit bien comment on a culture humaniste, on n'a pas histoire et géographie, les mots-là ne figurent plus, donc ça peut brouiller là aussi les attentes et rendre les choses compliquées. Ça peut aussi amener à dialoguer avec les historiens, avec les autres, etc., pour voir comment on peut construire ces compétences. Je dirais, pour moi, je pressens des tensions, une complexification.
On reviendra sur les compétences, mais je voulais juste faire un petit lien avec des choses qu'on verra plus tard. Une petite dernière pour la route, et dans 5 minutes, on va lever la séance.
Permis d'avancer dans la didactique de la géographie, je n'ai pas noté son nom, je voudrais que vous me redonniez le nom.
Alors, au départ, on a beaucoup les travaux de François Audigier, qui a beaucoup travaillé à l'INRP.
Dans ses locaux,
voilà.
À Paris.
À Paris.
Il a cité aussi André Chervel, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire de la construction de l'enseignement. Et ces travaux, ça se lit pas forcément aussi, c'est pas aussi intéressant qu'un roman, mais c'est tout à fait passionnant de voir comment, par exemple, la construction de la manière d'enseigner, la dictée, la cacographie, etc., au 19e, a structuré chez des générations d'enseignants des rapports avec les matières scolaires qui ont fait que, par exemple, en France, on a complètement survalorisé certains apprentissages. Et Chervel dit jusqu'à empêcher, par exemple, les évolutions linguistiques de l'orthographe, enfin des choses comme ça. Et André Chervel, c'est quelque chose d'extrêmement passionnant. Je ne sais plus par cœur le titre, mais c'est en gros histoire de l'enseignement, des pratiques d'enseignement ou histoire de l'enseignement au 19e. Un gros bouquin orange chez Retz.
Le ratio entre enseignants débutants, formation, enseignants, on va dire experts, etc. Il y avait des caractéristiques particulières pour le public qui a auprès duquel vous avez fait vos observations.
Alors, je dirais que vous avez peut-être trouvé que c'est une façon de fuir. Le public, c'est ceux qui ont bien voulu. Donc à partir de là, il était difficile d'avoir beaucoup d'exigences. Au départ, je m'étais dit, il me faudrait des débutants, des expérimentés, il me faudrait qu'il y ait des enseignants qui ont eu une formation universitaire. Et puis, j'ai contacté près d'une centaine d'enseignants, et puis j'en ai trouvé une douzaine qui ont bien voulu que je vienne filmer. Certains... J'ai des enseignants débutants au sens vraiment premier, c'est-à-dire première ou deuxième année d'exercice. J'en ai un qui était dans un contexte difficile, c'était dans une ZEP. J'en ai un autre qu'on pouvait considérer comme débutant, c'est-à-dire que ce collègue avait enseigné pendant près de 20 ans en cycle 2, c'est-à-dire CP, CE1. Et puis pour des raisons qui sont diverses et variées, il était passé au cycle 3. C'était un débutant, pratiquement, etc. Donc, j'ai une diversité, mais c'est significatif de rien, puisque ce sont ceux qui ont bien voulu participer.